Sud Radio, c'est ça la France. Midi, midi 30, Nathalie Schrein-Guirma.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, le rendez-vous hebdomadaire qui met en avant les talents français. J'espère que vous passez un bon dimanche, en famille ou pas d'ailleurs. Merci d'avoir choisi Sud Radio, la radio du parler vrai. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à ces surdoués du commerce digital. Toute cette nouvelle catégorie d'acteurs du digital qui révolutionne notre rapport à la consommation. Tout à l'heure, vous découvrirez une nouvelle plateforme de service, justement qui met en relation des propriétaires de bateaux et des skippers professionnels. Mais avant ça, on va s'intéresser un peu plus à ce digital qui s'est imposé dans nos vies. Il fait partie intégrante de notre quotidien, ce digital, qui redéfinit complètement les codes et les pratiques du commerce. Une nouvelle ère qui s'ouvre à nous et on en parle tout de suite avec notre premier invité.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Viviane Lipskier.
Bonjour Nathalie, je suis ravie d'être là avec tes auditeurs de Sud Radio.
Merci, nous on est contents de vous recevoir. Alors vous êtes experte en nouveaux business models, hein, notamment dans la mode, le luxe, les médias. Alors vous êtes passionnée par ce monde du digital qui transforme tout sur son passage, hein, il faut le dire. Vous le décryptez, ce nouveau monde. Et vous avez d'ailleurs consacré un livre, hein, les DNVB, les surdoués du commerce digital. Digitally Native Vertical Brands.
Tout à fait ça.
Alors expliquez-nous ce qu'est justement ce DNVB. Est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau modèle de commerce?
Absolument, c'est un nouveau modèle de commerce digital. Donc le Digitally Native, ça veut dire né sur le digital, justement, sur l'Internet, grâce aux avancées de l'Internet et des nouvelles technologies. Et Vertical Brand, ça veut dire que c'est un modèle, un circuit court, en fait, où on va raccourcir, supprimer les intermédiaires en amont, donc depuis le sourcing des matériaux.
Directement au client.
Directement, mais même juste de la fabrication, depuis la production et la fabrication, jusqu'au client. Donc toute la chaîne
on
de valeur
est raccourcie. On maîtrise toutes les phases de production.
Absolument. Absolument.
Est-ce qu'on peut dire, parce que c'est vrai que quand on pense au digital, on pense au e-commerce. Ça n'est pas du e-commerce, ce n'est pas juste une extension d'une boutique physique sur le net. On va plus loin que ça.
Ah, bien au contraire, c'est vraiment repenser le commerce pour le digital et pas une extension effectivement de boutique comme on le fait traditionnellement. En fait, l'expérience principale et la manière de raconter l'histoire va se faire sur le digital. Ce qui fait que, alors, les digital natives sont des startups à la base. Elles utilisent les technologies, les techniques de startups pour développer les produits et elles s'appuient sur des communautés. Et pour se développer sur Internet, elles ont très souvent un système de valeurs, elles s'appuient sur le sens. Et puis, en raccourcissant cette chaîne de valeurs, elles proposent aussi une vision plus transparente et plus juste du prix. Donc, le fait qu'elles naissent et elles expriment sur Internet, même si quelquefois elles peuvent avoir des extensions physiques. En réalité, aujourd'hui, nous, en tant que clients, on vit avec un téléphone mobile à la main et on rentre dans des boutiques et on va chez nous et il n'y a pas de coupure dans ce monde-là. Et c'est exactement ce que représentent aujourd'hui les digital natives vertical brand.
Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans de la personnalisation, dans des marchés de niche ou pas forcément ?
On est absolument dans des marchés de niche parce que ce qui se passe, c'est que ces startups vont aller chercher des clients là où les grandes entreprises aujourd'hui ne proposent pas de solution. Il y a des trous, ce qu'on appelle des trous dans la raquette. Donc, soit il n'y a pas de proposition de valeur, ce qui est par exemple le cas où certains marchés sont complètement desservis. Les tailles XXL, par exemple, dans la mode, hein, ou les peaux afro-américaines aux États-Unis, ça représente un énorme marché et il n'y avait pas spécialement, par exemple, le marché du rasoir n'adressait pas ces clients-là. Et donc, par exemple, Bevel, qui est une digital native américaine, a adressé ce marché. Donc il y a à la fois effectivement des nouveaux marchés de niche, donc un rasoir, c'est souvent monoproduit, juste un seul produit pour commencer, bien souvent, et parfois ça reste même comme ça. Et donc pour vendre un seul produit, il faut avoir une proposition de valeur vraiment très forte.
Alors vous le dites souvent, allez, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups qui ne savent pas qu'elles sont finalement digital native. Et finalement, quand on remonte un peu dans le passé, dans votre livre, vous racontez que Dell, les ordinateurs Dell, on peut dire que ça a été l'une des premières DNVB.
Oui, parce qu'elle vendait directement aux clients et sur Internet. C'est vrai que ça a été une des pionnières. Et dans le modèle direct, il y a déjà pas mal d'acteurs. Il y avait Apple qui vend directement à ses clients. Aujourd'hui, il y a Tesla aussi. On peut imaginer que Tesla soit aussi une digital native vertical brand. Mais le modèle, le nom, cet acronyme a été inventé en 2007 par un des pionniers des DNVB qui s'appelle Andy Dunn et qui a créé une marque qui s'appelle Bonobos, qui n'est pas Bonobo les jeans, mais Bonobos. Et lui, il avait l'idée vraiment de réinventer le retail en disant que finalement, l'expérience client en boutique n'apportait plus grand-chose. Que souvent, les préoccupations des vendeurs, c'était plutôt de replier des piles. Et effectivement, Nathalie, lui, il est reparti de l'idée que aussi la proposition autour du pantalon pour homme n'était pas vraiment géniale. Que quand on était un Américain balancé comme un footballeur, on avait du mal à trouver une vraie proposition.
Dès qu'on n'est pas dans les standards, on
est... Exactement. Donc l'idée, c'était de repenser les tailles et de proposer de la personnalisation et une meilleure adéquation entre les propositions pour les hommes. Et ça, c'est possible que sur le digital, parce que finalement, quand vous multipliez les combinaisons de tailles à l'infini, plus les tissus et les couleurs, ça n'est pas vendable en boutique. Ça prendrait trop d'espace, trop de stock. Alors que c'est tout à fait possible sur le digital. Mais la condition, c'est d'avoir derrière une équipe technique qui puisse mettre ça en œuvre. Et c'est pour ça que dans cette Digital Native Vertical Brand, il y a bien souvent la moitié, plus de la moitié de l'équipe qui sont des développeurs, des geeks, des data scientists. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller reproduire sur Internet ce qu'on fait en boutique. Ce sont des startups, donc elles n'ont pas beaucoup d'argent à la base. Il s'agit d'aller automatiser un certain nombre de tâches. Et c'est là qu'elles ont de l'intérêt. Et c'est pour ça qu'elles peuvent avoir des croissances aussi incroyables que celles qu'on peut voir aujourd'hui.
D'où l'importance des big data pour eux.
Absolument, c'est crucial. C'est crucial pour connaître le client, parce que c'est au cœur du projet. Connaître le client, remettre l'humain au centre, comme elles disent, ça c'est le cœur du projet, c'est-à-dire s'intéresser pas simplement à son parcours, mais à vraiment ses envies et ses besoins. Ce qui est complètement en rupture avec la manière de faire traditionnelle, hein, où on part de qu'est-ce qui se passe sur le marché, on regarde ce que font les compétiteurs et on essaye de faire, d'avoir les propositions, de se pencher sur des propositions assez similaires. Non, là, on va aller en rupture et donc il faut avoir une connaissance client qui est absolument hyper développée. Et puis ensuite, savoir où lui parler et comment lui parler, ça aussi, il faut absolument maîtriser effectivement. Et la data, et le deep learning, l'intelligence artificielle.
Et la stratégie de la communication de la marque, en fait, tout est bouleversé. Alors, on évoquait tout à l'heure les commerces physiques, hein, donc le déclin du retail, parce que effectivement, ces commerces physiques souffrent. Alors, j'ai appris dans votre livre, par exemple, que Victoria's Secret, JCPenney, Gap, Macy's, bon, Toys R Us, ça, pour le coup, j'en avais entendu parler, ce sont des entreprises qui souffrent un petit peu de ça. Ralph Lauren a quitté la 5e Avenue, donc on sent bien que le commerce physique est en déclin. Et selon le Crédit Suisse, 25% des 1200 malls américains devraient disparaître d'ici 2022. Mais c'est demain, 2022?
Oui, c'est demain, parce qu'en fait, ce que reflètent les DNVB, c'est qu'on est sorti d'un cycle économique. C'est vraiment une lame de fond sociétale. Un programme qui avait commencé plus ou moins après la guerre, qui était basé sur la surproduction, la surdistribution et la surconsommation. Aujourd'hui, c'est plus durable. Et donc, ce sont des nouvelles solutions, en fait, effectivement, de petits marchés de niche, mais pas simplement, qui vont se réinventer en ligne. Alors, à la nuance près qu'elles réinventent aussi, à leur manière, le retail physique, sous d'autres formes, sous forme de magasins éphémères, qu'on appelle pop-up store, sous forme de showroom, c'est-à-dire un magasin où on ne vend pas nécessairement, on va juste regarder et acheter en ligne. Et de toute façon, ce qui compte le plus, c'est l'expérience physique, c'est-à-dire que quand vous allez en magasin, vous pouvez y aller en prenant rendez-vous et on va s'occuper de vous vraiment. Si vous allez aujourd'hui chez Cézanne, par exemple, à Paris, qui est une Digital Native Vertical Brand, vous risquez de faire la queue, en fait, devant ce qu'elle appelle l'appartement et pas la boutique. Pourquoi ? Parce qu'elle veut limiter à l'intérieur le monde de manière à ce que vous soyez bien reçu, comme à la maison,
d'accord,
et que vous ayez une vraie expérience de marque. Donc ça chamboule complètement la relation.
On a le sentiment d'être privilégié finalement.
Absolument, absolument. Parce que, alors c'est important pourquoi ? Parce que, alors du point de vue du client, effectivement il est privilégié, il est mieux reçu, donc il aura envie de revenir, de racheter et d'être accompagné dans ses achats. Et du point de vue de la marque, il y a quand même un déficit quand vous êtes en ligne par rapport à ce que vous pouvez apprendre sur votre client. Et cette relation, en fait, vous pouvez la développer en boutique. Ouais. Et c'est là que vous allez glaner de l'information, connaître mieux vos clients, apprécier ce qu'ils aiment, ce dont ils ont envie, besoin. Et pour la mode, par exemple, est-ce que les vêtements taillent bien sur tout le monde, etc. Donc c'est très précieux, ces moments-là. Et il y a aussi certaines personnes qui n'ont pas envie d'aller acheter en ligne, pour qui ça reste important d'aller toucher, voir le contact humain. Mais globalement, je dirais que c'est le départ d'une expérience, la boutique, et que plus il y a de digital, et plus l'humain est important.
Donc peut-être que les boutiques physiques ne vont pas disparaître, mais se réinventer complètement.
Ben, c'est ce qu'il faut souhaiter, parce que c'est vrai que ça n'a pas de sens de faire, de reproduire la même chose en ligne et en physique, en fait. Et il faut vraiment trouver un autre moyen d'exprimer la marque. Le problème des marques traditionnelles, c'est que souvent, elles n'ont pas d'identité de marque, justement. Oui. Elles n'ont pas de discours de marque. Alors que les DNVB sont très engagées. Elles ont souvent des discours qui sont des discours politiques. Elles se dotent de missions, comme Patagonia, par exemple, ou Toms, qui ne sont pas des DNVB, mais qui inspirent énormément ce modèle-là. Donc là, en fait, c'est là le risque pour les retailers traditionnels, c'est justement de ne plus savoir parler et prendre la parole au nom de quelque chose d'autre que de vendre un produit, en fait.
Mais quand on vous écoute, on se dit qu'au-delà du produit, c'est vraiment une nouvelle façon de voir le monde, en fait. Ce digital, il est en train de, oui, bon, comme vous disiez, créer du lien, réinventer la relation client, proposer des nouvelles formes de magasins physiques.
Oui, il prend une place à la fois politique et sociale. Et c'est la consommation en tant que telle, la consommation de masse, on peut dire, a vécu. Il lui reste encore certainement quelques années devant elle, mais le lien social aujourd'hui est à privilégier et l'engagement. Et c'est vrai que un des piliers des digital native vertical brand, c'est la transparence. La transparence parce qu'elle permet d'être plus éthique et le fait d'avoir un circuit court permet de garantir aussi l'approvisionnement des produits, tout ce qu'on appelle la supply chain. Et c'est crucial aujourd'hui. Nous voulons savoir ce que nous consommons. Où ils ont été, dans quelles conditions ce que nous consommons a été fabriqué, qu'est-ce qu'on met dans nos produits, ouais. À quelle valeur ça correspond, ouais. Exactement, est-ce que le travail humain a été respecté dans des bonnes conditions. Et c'est pas souvent simple. Dans la plupart des filières, on parle de mode, mais dans ce livre, je parle de tous les secteurs, parce que les DNVB sont dans tous les secteurs.
Dans toutes les catégories.
Toutes les catégories de produits, de biens de consommation. Hein. On parle pas de services, on parle de biens de consommation. Et aujourd'hui, toutes les catégories de services, qu'on parle de joaillerie, d'alimentaire, de mode ou de cosmétiques, ont des zones opaques dans leurs approvisionnements et dans leur manière de faire le produit. Les DNVB sont capables de résoudre ces problèmes et en tout cas de s'interroger très fortement. Donc ça, c'est vraiment une révolution. Ça veut dire finalement que le consommateur étant au centre, c'est bien le consommateur qui a le pouvoir.
Viviane Lipskier, DNVB, les sourdoués du commerce digital. C'est un livre qui est passionnant, qui est très documenté. Il y a beaucoup d'exemples, hein, de modèles disruptifs. On n'a pas le temps de tous les voir. Il y a même les enjeux aussi que vous listez pour les grands groupes de se mettre justement au diapason, les stratégies de lancement de marque. C'est vraiment un livre que je vous recommande, hein, les sourdoués du commerce digital. On se quitte le temps d'un petit instant. On se retrouve tout de suite pour parler d'une nouvelle plateforme de service qui met en relation les propriétaires de bateaux et de skippers professionnels. Et bien évidemment, Viviane, vous restez avec nous. À tout de suite.
Merci, Nathalie.
Sud Radio, c'est ça. La France. Midi, 12h30, Nathalie Schrengirma.
Bienvenue dans C'est ça la France, votre émission consacrée au savoir-faire français, aujourd'hui au commerce digital, à ces surdoués du commerce, hein, qui révolutionnent ce monde du commerce dans notre quotidien finalement. Et comme chaque semaine dans C'est ça la France, on vous présente des entreprises ou des jeunes entrepreneurs qui innovent dans leur domaine.
Sud Radio, C'est ça la France.
Et l'entreprise du jour est Captain Boat. J'espère que je le prononce bien. Bonjour Aymeric Le Vauvalier.
Bonjour Nathalie.
Bonjour, vous êtes fondateur de Captain Boat. Alors vous êtes parti d'un constat, c'est qu'il y a beaucoup de demandes en France et même dans le monde de volonté d'utiliser des bateaux, mais en même temps comment est-ce qu'on met en relation les skippers, les bateaux privés, tout ça était un peu compliqué jusqu'à présent, ça se faisait beaucoup par le bouche à oreille finalement, trouver le bon skipper.
Oui, alors en fait je suis parti du constat qu'aujourd'hui il n'y avait aucune digitalisation et aucune organisation du métier de skipper. Que c'était un métier compliqué, parce que c'est un métier réglementé qui nécessite d'avoir certains diplômes pour effectuer certains types de prestations, mais il y a plusieurs diplômes pour un même métier. Et en fait, aujourd'hui, quand on est diplômé du diplôme de capitaine, on ne sait pas réellement, même quand ça nous concerne nous, quelle prestation on a réellement le droit de faire ou pas. Et donc, quand on se met du côté du propriétaire, c'est encore plus compliqué. On ne sait jamais, en fait, si on embauche la personne qui a le bon diplôme pour faire la bonne prestation.
Donc, il fallait mettre de l'ordre dans tout ça, quoi. Une sorte de flou artistique.
Ouais, c'est ça. C'est un gros flou artistique qu'on essaie d'organiser. Si je vous parle en chiffres, aujourd'hui, 63% des prestations ne sont pas réalisées avec le bon diplôme et 78% des skippers ne sont pas assurés. Ah oui. Donc, en fait, dans plus de 90% des cas, s'il y a un problème, les assurances ont le droit de dire on ne couvre pas. Et aujourd'hui, dans ce flou-là, de plus en plus d'assurances sortaient de cette prise de risque. Et nous, on arrive avec un algorithme réglementaire à ne proposer et ne mettre en relation que des skippers avec les bons diplômes qu'on a validés et qu'on a vérifié et validé pour le besoin que le propriétaire, au sens large, hein, recherche. Le propriétaire, c'est propriétaire particulier, des chantiers, des loueurs de bateaux, enfin toute personne qui, en fait, a besoin des services d'un skipper professionnel.
Mais alors, c'est du vécu ? C'est que vous êtes retrouvé un jour à avoir du mal à trouver un skipper ou
vice-versa ? Alors, c'est dans l'autre sens. Moi, j'ai passé mon diplôme de skipper pro anglais, qui est une validation de compétences, contrairement au diplôme français où c'est une réelle grosse formation. Et une fois que je l'ai eu, je me suis demandé comment rechercher pour faire des petits boulots à droite à gauche en deuxième ou troisième travail. Et je me suis rendu compte que il existait pas de place de marché et que il y avait plein de personnes qui disaient sur les bruits de ponton que tel diplôme avait le droit de faire ça, mais pas ça.
Ouais.
Et du coup, moi, j'apportais une importance à ne pas me mettre hors la loi, en fait, pour pouvoir avoir le droit de faire ce que je pouvais faire. Et du coup, on n'arrivait pas à avoir la bonne réponse. Et même quand j'interrogeais les affaires maritimes, qui sont un peu la référence, hein. Ils ne me répondaient jamais de façon claire. Ils me renvoyaient des textes de loi qui, eux-mêmes, renvoyaient vers d'autres textes de loi. Donc, en fait, voilà, je me suis associé à un cabinet d'avocats experts en droit maritime pour pouvoir construire cet algorithme pour ne mettre en relation que des choses qui ont légalement le droit de fonctionner ensemble.
Alors, concrètement, comment ça fonctionne, Captain Boat ? Je suis un propriétaire de bateau, je cherche un skipper.
Vous êtes un propriétaire de bateau, vous vous inscrivez sur la plateforme, vous inscrivez votre bateau et ses spécificités. Du coup, s'il est sous pavillon français, anglais, parce que
c'est ce qui fait le flou. Il n'y a pas de frontières.
Voilà, il n'y a pas de frontières et c'est aussi ça qui organise le besoin du diplôme en face. Donc oui. En fait, il y a plein d'informations, la taille, le poids du bateau. Ensuite, par rapport au bateau, il va créer son annonce, donc il dit qu'il a besoin d'aller d'un point A à un point B. Ou qu'il a besoin d'un skipper pour une prise en main, pour l'aider à se conforter dans l'utilisation de son bateau, ou former ses enfants, enfin tout type de prestations qu'un skipper peut faire. Et en fait, il crée son annonce, l'annonce est visible sur le site, mais directement, le site va également lui proposer des skippers qui correspondent à son annonce. Et ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que le skipper, lui, quand il s'inscrit sur la plateforme, il renseigne ses diplômes qu'on valide. Une fois qu'ils sont validés, le skipper est visible sur la plateforme. Et on lui propose directement sur son profil des annonces qui correspondent à ses disponibilités géographiques, calendaires, mais aussi légales de ce qu'il a le droit de faire. Donc on leur push, que ce soit côté propriétaire ou skipper, les personnes qui peuvent correspondre, mais ils peuvent aussi eux-mêmes rechercher directement de manière classique sur une plateforme leur solution à leurs besoins.
Alors aujourd'hui, vous avez combien de skippers à votre actif ? Combien de propriétaires de bateaux ? Parce que l'entreprise est récente, elle a été lancée en 2018, c'est ça, la plateforme ?
Alors aujourd'hui, la société existe depuis octobre 2018. La plateforme sera en ligne, enfin est en ligne pour le référencement des skippers, mais sera officiellement en ligne à la fin du mois.
Dans le cadre d'un salon, peut-être ?
Non, on attend la validation du contrat assurance qui attend d'être vraiment... c'est les dernières rédactions pour pouvoir être vraiment carré sur la mise en ligne et permettre à tout le monde de se mettre en relation.
C'est un modèle qui existe ailleurs ? Vous avez pu vous comparer ?
Non, ça existe nulle part. En fait, aujourd'hui, il n'existe que des plateformes de petites annonces, du style Le Bon Coin ou autre, où les skippers disent qu'ils sont disponibles.
Mais ils ne disent pas les diplômes. Pour
les propriétaires, on ne sait jamais. Déjà, quand on est skipper, on ne sait pas qu'est-ce que nous permet de faire réellement notre diplôme. Donc, quand on n'est pas dans le milieu,
c'est compliqué
de savoir. Donc, en fait, on essaye de mettre en relation les bonnes personnes.
C'est une très belle initiative. Captain Boat, c'est une plateforme qui est assez récente et on lui souhaite une longue vie. Merci beaucoup, Aymeric Le Vauvallier, fondateur de Captain Boat, d'être venu nous raconter justement tout ça.
Merci
pour votre témoignage. Il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors je remarque que vous êtes venu avec votre plus belle paire de chaussures de course. Alors y aurait-il un rapport avec votre sujet du jour ?
Ça se pourrait bien Nathalie. Une petite question d'abord, est-ce que vous faites partie de la grande tribu des runners, des joggers ?
Est-ce que je vais être honnête ?
Ouais,
non.
Non,
je ne fais pas partie.
C'est pas grave, parce que ce qui va suivre, je pense que ça va vous intéresser. Je suis allé en petite foulée au salon du running qui s'est tenu le mois dernier à Paris et qui a rassemblé pas moins de 100 000 visiteurs. Et là-bas, c'est l'occasion de rencontrer tous les acteurs de ce monde, et notamment les fabricants d'équipements. Et parmi les entreprises françaises présentes, il y en a une dont le nom m'a vraiment intrigué. Elle s'appelle Les Poulettes.
Un sacré nom.
Et donc, j'ai demandé à sa fondatrice, Roxane, de m'en dire un peu plus.
Alors, on fait des vêtements de sport pour femmes 100% fabriqués en France, avec des designs très originaux, une fabrication intégralement française du tissu au packaging et une technicité importante pour faire du sport en étant élégante et fashion. Pour les femmes.
Vous pouvez nous décrire, là, je vois effectivement des vêtements très, très colorés avec des motifs super intéressants. Vous pouvez nous les décrire un petit peu ?
Oui, bien sûr. Alors, on a du coup notre motif phare qui est le motif Morito. Donc, on veut montrer chez Les Poulettes qu'on peut faire du sport et profiter des plaisirs de la vie, que ce n'est pas deux mondes incompatibles. Donc, on a un peu un slogan qui est Abdo et Morito. Et voilà, pour là, on a notre nouvelle collection qui est très fleurie, dans les tons pastels, dans les tons très colorés. Voilà, et après, on a des motifs avec un petit peu japonais, des motifs assez haute couture ou avec des effets d'optique. Donc, beaucoup de couleurs, beaucoup de motifs pour être quand même dans l'élégance et le chic, tout en étant original et coloré.
Vous êtes une toute jeune entreprise, vous avez moins d'un an et demi, c'est ça ?
Oui, exactement. En fait, ça fait un an et demi qu'on a eu justement l'idée de créer notre marque avec Amélie, qui est l'autre cofondatrice. Et ça fait un an qu'on a notre site internet, Les Poulettes Fitness, qui est présent et sur lequel on vend nos produits.
Dernière chose, vous êtes 100% made in France ?
Oui, exactement. On peut vraiment dire qu'on est 100% made in France. Donc tous nos tissus sont fabriqués en France, vers Bourgoin-Jallieu. Ensuite, c'est sublimé et confectionné avec une méthode labellisée Ecotex en France. Et tout ce qui est étiquette est apposé à Lyon dans nos bureaux.
En plus, une démarche éco-responsable.
Exactement, une démarche éco-responsable. Le seul produit donc, qui n'est pas fait en France, c'est notre tote bag et c'est un parti pris parce qu'on reverse 40% du prix d'achat à une ONG indienne donc, qui fabrique les tote bags, qui œuvre à l'émancipation des femmes de New Delhi, qui les aide à mettre leurs enfants à l'école et à trouver un travail donc, en fabriquant justement des tote bags, des sacs. Donc voilà, c'est le seul produit qui n'est pas fait en France, mais c'est pour encore une démarche vraiment responsable et éthique.
Bon, là, je suis heureuse. Là, une entreprise made in France, une belle initiative avec une partie du prix d'achat. C'est ça, d'un tote bag, qui est remis à une ONG indienne.
Exactement.
Donc, il y a des belles valeurs derrière. Alors, est-ce que vous avez fait d'autres découvertes dans ce salon, Thibault ?
Bah oui, et vous savez quoi ? J'ai découvert qu'on avait plus besoin de faire de nœuds à ses lacets grâce à un concept révolutionnaire mis au point par la marque française Unchained.
Pas mal, ça.
Ça, c'est pas mal. Alors, comment c'est possible ? Eh bien, écoutez.
Bah, tout simplement, on a développé un concept qui permet, avec le design du lacet et la matière, de ne plus avoir à faire ces lacets. C'est-à-dire qu'on les règle une fois la vie de la chaussure. Après, on peut les régler selon si on veut. Mais en fait, on les pose et on est maintenu sans pression sur le dessus du pied. C'est complètement bluffant. C'est juste, voilà, vous voyez, la dame, elle ne comprend pas.
j'ai assisté à la démonstration, ça marche. C'est un brevet français ?
C'est un brevet français. On a déposé aussi des brevets donc à l'international, bien évidemment, aux États-Unis, au Japon, partout, quoi. Et on est assez fiers. Et la fabrication est 100% française. Aussi bien le concept du lacet qui est composé de trois parties, le memory lace, le bloc-notes et le center pod. Et le packaging aussi est fait aussi en France, quoi.
Fabriqué où ?
Alors, on a une partie, donc la partie silicone, elle est faite, excusez-moi, dans les Alpes du Sud. La partie en nitrile plastique est faite près de Chamonix, à Cluses, et l'autre, le packaging dans les Vosges.
On aime bien ces inventions françaises, hein. Bon point là encore, Thibault. La suite de la semaine prochaine,
hein. Si vous voulez.
On fait ça ?
Ça marche.
Merci beaucoup Thibault, merci Aymeric Levaux-Vallier, fondateur de Captain Boat, et Viviane Lipskier, le livre qu'il faut absolument lire, DNVB, Digitally Native Vertical Brands, les surdoués du commerce digital chez Maxima, l'éditeur Maxima Laurent Duménil. Merci, bon dimanche à tous, et pour les retardataires, vous pouvez bien évidemment retrouver cette émission sur sudradio.fr en podcast. À la semaine prochaine, même jour, même heure.
Sud Radio, c'est ça la France.